Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 22 février avec vous Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse. Au cours de cette émission, le journal, les sports, le Zap France et coup de projecteur sur l'Ukraine avec Florence Gillette, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Ukraine. Elle nous parle du sentiment général sur place. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 22 février, la Fédération russe reconnaît l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'Est ukrainien. Un service limité des transports en Nouvelle-Galles du Sud suite à un conflit entre le gouvernement et le syndicat des travailleurs du transport. Et puis le retour triomphal de Novak Djokovic au tournoi de Dubaï après la saga australienne de l'exemption médicale en janvier dernier. La Fédération de Russie reconnaît l'indépendance et la souveraineté des régions séparatistes pro-russes de l'Est ukrainien, Donetsk et de Lugansk. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné hier soir à l'armée russe de, je cite, « maintenir la paix dans ces territoires ». On l'écoute.
Il est nécessaire de prendre une décision qui aurait dû être prise depuis longtemps. Reconnaître immédiatement l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Luhansk. Je demande à l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie de soutenir cette décision et de ratifier ensuite les traités d'amitié et d'assistance mutuelle avec les deux républiques. Ces deux documents seront préparés et signés dans un avenir très proche. À ceux qui ont et détiennent le pouvoir à Kiev. Nous exigeons une cessation immédiate des hostilités. Sinon, toute la responsabilité de la poursuite éventuelle de l'effusion de sang reposera entièrement sur la conscience du régime au pouvoir sur le territoire de l'Ukraine. En annonçant cette décision prise aujourd'hui, je suis confiant dans le soutien des citoyens de Russie et de toutes les forces patriotiques du pays.
On écoute la réaction en Europe avec ce reportage de Pierre Benazé pour RFI.
Pour les Européens, la reconnaissance de Donetsk et Lugansk par le Kremlin, c'est à peu près l'équivalent d'une incursion militaire. Vladimir Poutine n'a évidemment à aucun moment prononcé le mot rattachement ou annexion, mais cette déclaration russe est une violation flagrante du droit international. Ce sont là les termes utilisés par le président du Conseil européen et la présidente de la Commission dans un communiqué publié quelques minutes après la fin de l'allocution du président russe. Selon Charles Michel et Ursula von der Leyen, cette violation de l'intégrité territoriale ukrainienne et du même coup une violation des accords de Minsk. Les Européens promettent unité, fermeté et détermination. Ils annoncent surtout des sanctions contre toutes les personnes impliquées dans cet acte illégal. Cette expression pourrait donc très bien entraîner pour la première fois des sanctions à l'encontre de Vladimir Poutine lui-même. Tout autant qu'une invasion militaire de l'Ukraine, les Européens craignent la création d'un nouveau conflit gelé après l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud ou la Transnistrie. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, avait annoncé des sanctions à différents degrés, des sanctions avant tout économiques.
Et aux États-Unis, quelle est la réaction? Karine Otten est sur place pour RFI.
Oui, le président américain Joe Biden va publier un décret qui interdira tout nouvel investissement, échange ou financement par des personnes américaines à destination, en provenance ou dans ces régions. C'est assez limité puisque ces deux territoires séparatistes de Donetsk et de Lugansk n'ont que très peu de relations avec les États-Unis. C'est donc symbolique. Cela ancre surtout l'escalade de ces dernières heures. Washington s'est empressé de rappeler que si la Russie venait à envahir plus l'Ukraine, alors un paquet de sanctions rapides et sévères s'abattrait sur Moscou pour l'isoler des marchés financiers mondiaux. Le secrétaire d'État Anthony Blinken, lui, n'a pas répondu directement à Vladimir Poutine qui a accusé l'Ukraine d'être une marionnette des États-Unis, mais il a souligné que la décision du président russe allait à l'encontre d'un engagement russe envers la diplomatie. Par ailleurs, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a dans un geste rare pointé du doigt la Russie directement. Le Conseil de sécurité devrait se réunir en urgence.
En Australie, le Premier ministre Scott Morrison annonce un investissement de plusieurs millions de dollars pour renforcer la présence stratégique de l'Australie en Antarctique. L'Australie est actuellement la gardienne de 42% du continent, connu sous le nom de territoire australien où elle possède 3 bases. Cela survient alors que la Chine étend également sa présence dans la région. Scott Morrison.
The world is working together to protect Antarctica. But there'll be others who will have different objectives there and would seek to exploit its resources in a way that would not be consistent with those objectives. And so we're ensuring that in our stewarding of this incredible environment that we've got eyes on, and so there's a transparency about what's taking a place down there.
Un service limité des transports en Nouvelle-Galles du Sud suite à un conflit du travail entre le gouvernement et le syndicat des travailleurs des transports. Une réunion du Fair Work Commission se poursuivra demain, mercredi, n'ayant pas pu trouver un accord hier, lundi. Écoutez ces gens affectés par cette grève limitée des transports.
It is kind of just jarring, I guess.
I had no idea where I was going. I was late to my classes, new to the city as well. It was really scary, but yeah, late to the first day of uni as well.
It's not our mistake, all right? So do not punish the average people who take in the public transportation every day.
La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 14 décès dus au coronavirus et 8752 nouveaux cas depuis hier. Il y a 1293 personnes à l'hôpital avec le virus, dont 71 en soins intensifs. Le Victoria signale 14 décès et 6786 nouveaux cas depuis hier. Il y a actuellement 345 personnes à l'hôpital avec le virus et 48 personnes en soins intensifs. Au Queensland, il y a 5 décès et 5583 nouveaux cas de coronavirus depuis hier. Les City annoncent 583 nouveaux cas aujourd'hui et la Tasmanie 800 nouveaux cas depuis hier. Le gouvernement du Victoria va assouplir les règles du port des masques à partir de ce vendredi soir. Ils ne seront plus nécessaires à l'intérieur. Écoutez le chef du Victoria, Daniel Andrews.
This Friday, when we have advice to all Victorians, you can go back to the office. You don't have to work from home anymore. That was always advisory in this last phase anyway. But one of the biggest blockers to people going back to the office is having to wear masks. And now there'll only be a very small number of settings where masks are needed. And again, that's based on health advice also.
Les frontières internationales de l'Australie de nouveau ouvertes depuis hier, lundi. Les voyageurs d'outre-mer avec un schéma vaccinal complet ainsi qu'un test négatif à réaliser avant d'embarquer peuvent se rendre ici en Australie pour la première fois en 2 ans en raison de cette pandémie de coronavirus. Outre les touristes, de nombreuses réunions de famille ont eu lieu. SBS News s'est entretenu avec Sydney Anderson qui accueillait sa fille Andrea Thomas de Caroline du Nord.
We're waiting for our daughter. We haven't seen her for 2.5 years, so we're very excited. So as soon as we heard the announcement, she called Qantas and here she comes.
Et on passe à ce reportage de Grégory Pless pour Radio France Internationale.
Le bruit des vagues et le cri des mouettes, depuis bientôt 2 ans, c'est à peu près la seule chose qu'on entend sur l'esplanade de l'Opéra. Au grand dam de David, qui à 2 pas de là, gère une boutique vendant des pierres précieuses australiennes. Le retour des touristes, c'est pour lui, comme pour tous les commerçants du quartier, la fin d'une longue traversée du désert.
J'ai l'impression d'être un agriculteur de l'outback après 10 ans de sécheresse qui voit enfin un nuage arriver et la pluie tomber. Quand le premier vol de touristes va arriver, je vais sortir nu et me mettre à genoux, comme le font les paysans.
De l'autre côté du quai, Mason vient lui d'amarrer son water taxi. S'il se félicite du retour attendu des touristes, il ne croit en revanche pas à un boom.
Les touristes reviendront, mais ça va prendre du temps. Le pays a longtemps été coupé du monde et sa politique sanitaire, comme les règles de quarantaine, par exemple, sont mal connues du public.
Autre frein majeur à la relance de ce secteur qui a rapporté 40 milliards d'euros en 2019, les contraintes de déplacement qui pèsent toujours sur les deux principaux réservoirs de touristes en Australie, la Chine et la Nouvelle-Zélande. Pour les autres voyageurs souhaitant se rendre en Australie, il faudra présenter un schéma vaccinal complet ainsi qu'un test négatif avant d'embarquer.
Le Royaume-Uni est sur le point de supprimer toutes ses restrictions nationales du Covid-19. Le Premier ministre Boris Johnson a fait l'annonce à la Chambre des communes. Précision d'Emeline Vin pour RFI.
À partir de jeudi, les dernières restrictions légales vont tomber. La plus symbolique, plus besoin de s'isoler en cas de test positif, même pour les malades symptomatiques et les non-vaccinés. Boris Johnson compte, il l'a dit, sur la responsabilité personnelle. Par conséquent, terminer aussi l'allocation Covid pour les arrêts maladie. Progressivement, les capacités de dépistage seront démantelées à leur tour. Plus possible de se faire tester gratuitement à partir d'avril, à moins de faire partie des populations vulnérables. Dans sa déclaration à la Chambre des communes, le Premier ministre a mis en avant la couverture immunitaire. 2/3 des habitants ont déjà reçu leurs 3 doses et les avancées de la recherche avec la disponibilité désormais de traitements antiviraux contre le Covid. Sur les bancs de l'opposition, dont les élus ont gardé le masque pendant la séance, le plan a été accueilli fraîchement. Le leader des travaillistes, Keir Starmer, considère insensé de demander aux Britanniques de faire preuve de responsabilité tout en leur retirant les outils pour le faire, à savoir les tests, le contact tracing et surtout la possibilité de s'isoler. Il a comparé le Premier ministre à une équipe de foot qui mènerait 2-1 à 10 minutes de la fin et dont l'entraîneur retirerait les meilleurs défenseurs.
En Afrique, le président allemand est au Sénégal pour une visite officielle. Il a été reçu par son homologue sénégalais. Reportage Charlotte Hydrak pour RFI.
Le Sénégal est une démocratie forte et un havre de paix en Afrique de l'Ouest, selon Frank-Walter Steinmeier. C'est un pays clé, affirme le président allemand, qui dit vouloir donner une nouvelle impulsion aux relations entre Dakar et Berlin.
Nous sommes inquiets de la situation au Mali, au Burkina Faso, ou même dans la région entière. Mais cela a également des répercussions sur les débats à Berlin, pour savoir si... Et à quel point l'Allemagne s'engagera encore, par exemple, au sein de la MINUSMA au Mali. C'est une question qui incombe au Bundestag allemand. Et les échanges avec vous, Monsieur le Président, avec les experts que nous allons mener demain aussi, toutes ces expertises seront prises en compte en Allemagne.
De son côté, le président Macky Sall, à la tête de l'Union africaine, a souligné l'attente vis-à-vis de l'Allemagne sur sa participation au Mali et plus largement au Sahel.
Nous sommes convaincus que nous avons besoin de la présence allemande à la MINUSMA. Nous avons besoin du maintien de la MINUSMA au Mali. Nous avons besoin des forces européennes encore au Mali, y compris même des forces françaises.
Macky Sall, qui a par ailleurs salué, je cite, « la tolérance du modèle allemand en matière d'intégration des minorités ».
On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 34 degrés. Adélaïde, 28. Melbourne, 25. Hobart, 21. Canberra, 23. Wollongong, 23. Sydney, 26. Brisbane, 30. Cairns, 33. Darwin, 31. Et à Alice Springs, maximal de 35 degrés. Un rappel des grands titres de ce 22 février. La Fédération russe reconnaît l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'Est ukrainien. Et un service limité des transports en Nouvelle-Galles du Sud suite à un conflit entre le gouvernement et le syndicat des travailleurs du transport. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench
Journal des sports, et on commence bien avec les Jeux Olympiques qui se sont terminés ce week-end en Chine, donc à Pékin. Jeux Olympiques avec un très bon résultat pour les Français, notamment de Quentin Fillon-Maillet et du biathlon français qui rapporte la moitié des médailles pour le clan France. Christophe Diramsian.
Oui, 14 récompenses au total, 7 en biathlon. La proportion souligne la dépendance du monde des sports d'hiver à l'égard d'une discipline qui, rappelons-le, ne possède que quelques centaines de licenciés en France et qui continue d'entretenir cette excellence malgré la retraite de Martin Fourcade. Le ski alpin a aussi sa part dans ses résultats avec 3 récompenses, dont l'or pour Clément Noël en slalom. Le ski acrobatique et le snowboard également avec Tesla 2 et Chloé Trespeuch. En revanche, exception faite de Gabriela Papadakis et de Guillaume Cizeron, eh bien, les sports de glace restent loin du niveau à atteindre pour espérer jouer un podium. Pour la présidente de la Fédération française des sports de glace et chef de mission sur ces Jeux Olympiques, Nathalie Péchala, il va donc falloir réfléchir sérieusement à une nouvelle politique sportive et budgétaire pour ces disciplines, car pour l'instant, ça manque de cohérence.
On est dispersé. Quand je parle de moyens, je parle de moyens humains, je parle des moyens financiers, des moyens aussi en termes d'équipement, où on peut être mis à rude épreuve pour les patinoires, les halles de curling qui sont quasi inexistantes, la piste de bob qui coûte un bras. Donc en fait, il va falloir qu'ensemble, c'est-à-dire avec l'agence du sport, se donner des objectifs. Et d'ailleurs, quels sont-ils ces objectifs? Est-ce qu'on cherche de la haute performance? Est-ce qu'on cherche à développer les sports et à avoir beaucoup plus de licenciés? Et en fonction de ça, oui, moi je suis assez d'accord pour un plan Marshall, ça va faire mal, ça va être dur parce qu'on peut pas être bon partout. Chaque pays s'est positionné sur des disciplines maîtresses et je pense qu'il est temps pour la France de faire ce travail qui va être compliqué mais nécessaire si on veut augmenter l'enclassement des médailles.
Prioriser les disciplines à potentiel de médailles mais dont les athlètes sont encore souvent obligés de se débrouiller pour vivre et participer à des compétitions, ce sera sans doute le prix à payer pour espérer voir un jour des Français défiler les Allemands en bobsleigh ou les Néerlandais en patinage de vitesse.
Voilà donc. D'ailleurs, faisons un point sur les grands gagnants de ces Jeux Olympiques, toujours avec Christophe Diramsian.
Le même duo de tête, Norvège et Allemagne, 37 médailles, dont 16 en or pour les Scandinaves, tout en haut du tableau d'honneur devant la délégation allemande qui repart de Chine avec 27 récompenses, dont 12 en or. Le seul pays à ne pas être remonté sur le podium, c'est le Canada qui a plongé littéralement la 11e place du classement, faute d'avoir gagné beaucoup de médailles d'or. Et c'est la Chine qui en a profité pour prendre cette 3e place. 15 médailles, dont 9 en or. C'est le nouveau record du pays hôte dans des Jeux d'hiver. On imagine le malin plaisir que ça doit procurer au régime de Pékin d'avoir devancé les Américains qui ne sont que 4e. Les Chinois auraient eu une autre raison de narguer les États-Unis. Cette raison, c'est Eileen Gu, la star incontestée de ces JO avec ses 3 médailles dans 3 disciplines différentes, 2 titres en big air et en halfpipe et l'argent en slopestyle du jamais vu. Surtout à 18 ans, le jeune âge de cette prodige née en Californie, on le rappelle, devenue très médiatique et très populaire. Et c'est exactement ce qu'elle souhaitait, car elle veut inspirer cette jeunesse peu au fait des sports d'hiver.
Mon principal objectif a toujours été de populariser le sport auprès des filles, et particulièrement le ski freestyle, car je veux augmenter sa visibilité. J'ai toujours espéré qu'une jeune fille qui voit cette discipline pour la première fois à la télé, quand j'en fais, se dise « Waouh, elle me ressemble, si elle peut le faire, moi aussi je peux le faire ». Alors oui, à cet instant précis, ces médailles sont pour moi la meilleure chose au monde. Mais dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, le vrai nouveau monde viendra de la création de changements positifs dans la société. Et c'est quelque chose qui restera en moi pour toujours, davantage qu'un sentiment sur le moment. Je me sens très honorée d'avoir un rôle dans cette évolution, d'essayer de faire du monde un meilleur endroit. Et si j'arrive à faire changer le comportement ne serait-ce que d'une jeune fille, j'aurai atteint mon but.
Eileen Gu, promise à un avenir radieux dans ce monde du freestyle et qui aura marqué ses jeux par son talent, au même titre que d'autres athlètes qui ont formé ce qu'on pourrait nommer le club des 5, ceux qui ont empoché 5 récompenses, le fondeur russe Alexandre Bolchunov et 3 biathlètes, le norvégien Jonas Bø, sa compatriote Marte Olsbu-Rojland et bien sûr Quentin Fillon-Maillet.
Christophe Diramsian donc. Alors on va d'ailleurs rester sur l'olympisme et Martin Fourcade qui a été élu à la commission des athlètes du Comité international olympique. On l'écoute.
C'est une très belle marque de confiance, c'est aussi une grande responsabilité, en tout cas moi je le vois comme ça. Parce que je crois que les athlètes m'ont aussi élu pour des valeurs et ont envie que je garde ces valeurs-là et cette liberté de ton et de parole au sein du mouvement olympique. Donc oui, c'est une fierté, mais c'est aussi une responsabilité.
Tony Estanguet vous a précédé dans ce rôle de membre de la commission des athlètes. Est-ce que vous lui avez demandé un petit peu en quoi consistait précisément ce rôle?
Bien sûr, j'en ai parlé avec Tony, comme j'en ai parlé avec les autres membre français du CIO avant de m'engager dans cette candidature. C'est un rôle qui a plusieurs facettes, en tout cas particulièrement auprès des athlètes, d'arriver à porter leur message au sein de l'institution olympique. On est attendu pour ça en tant que représentant des athlètes. Mais c'est aussi un rôle plus global en tant que membre du CIO qui est celui de prendre les grandes orientations pour le mouvement olympique et de donner les orientations qui feront les Jeux de demain.
C'est une candidature qui part de loin, puisque dès la fin de votre carrière, et même avant, dès la fin des Jeux de Pyeongchang, vous aviez manifesté votre envie d'être membre de cette commission. Expliquez-nous ce cheminement jusqu'à cette élection.
C'est un choix que j'ai pris juste après les Jeux de Pyeongchang. Je savais que le mandat de Tony Estanguet, qui m'empêchait de me présenter à Pyeongchang, terminait lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Et donc ça a été une candidature qui a été soutenue par le comité olympique français. Et c'est ensuite une démarche qui était un peu celle que j'avais en tant que compétiteur, c'est d'essayer de comprendre les règles du jeu, de voir ce qui pouvait faire la différence par rapport aux athlètes qui se présentaient contre moi, et ensuite de tout mettre en place pour essayer d'être élu. Donc oui, ça a été pas mal d'investissements ces derniers mois, mais c'était une belle aventure, et je crois que même si elle avait été négative, si elle s'était soldée négativement, ça aurait été une énorme richesse de pouvoir mieux connaître le mouvement olympique, de mieux comprendre comment il fonctionnait, et particulièrement sur les sports d'hiver, parce que j'ai eu la chance de voyager sur beaucoup de sports d'hiver en début de saison. Et ça a été une vraie richesse pour moi dans la compréhension de cet univers.
Vous n'avez pas fait formellement campagne, parce qu'on ne fait pas formellement campagne pour être membre de la commission des athlètes. Néanmoins, vous avez défendu auprès des athlètes un certain nombre de valeurs et de sensibilités auxquelles vous êtes particulièrement attaché.
Oui, je n'ai pas fait campagne, je suis allé à leur rencontre, parce que si on veut les représenter, il faut un petit peu les connaître. Et ensuite, oui, j'ai essayé de rester... de rester moi-même et de simplement me présenter devant les athlètes avec le visage que j'ai pu avoir devant ma carrière, comme un athlète qui ose assumer ses convictions, qui a une liberté de parole et qui surtout a envie de faire évoluer les choses dans le bon sens.
Martin Fourcade. Allez, on parle maintenant de football, et un point d'ailleurs avec les Français à l'étranger, et notamment Olivier Giroud, qui cartonne littéralement en Italie, comme nous l'explique Matteo Cioppi.
Tout à fait, prenez note de cette phrase, Oliviero Bombervero, c'est-à-dire Oliviero buteur vrai. Buteur vrai, c'est la phrase qui depuis quelques mois prononce avec joie les tifosi du Milan AC pour rendre hommage à Olivier Giroud, devenu le préféré de San Siro, surtout après son magnifique doublé lors du dernier derby de la Madonnina. Giroud ne pouvait pas rêver mieux à Milan, et il faut le dire qu'il a su se faire apprécier dès le début, même en dehors du terrain. Un exemple, cet été, après être débarqué en ville pour signer son contrat avec le club rossonero, il a enregistré une vidéo de salutation aux tifosi en parlant en milanais, chose qui lui a valu la sympathie des supporters milanistes. Toujours souriant et de bonne humeur, l'attaquant français est considéré en ce moment un des principaux leaders de l'équipe, surtout sur le terrain, et où il n'arrête jamais d'inciter ses coéquipiers. Giroud, c'est aussi un téméraire. Il a accepté de porter le dossard numéro 9, qui, au Milan, après Pippo Inzaghi, n'a pas vraiment souri aux avant-centres. Mais Olivier, c'est un buteur vrai. Pour lui, toute compétition confondue, 10 buts en 24 matchs et 3 passes décisives, qui est jusque-là un bilan assez positif à sa toute première année en rossonnais.
Voilà donc pour Olivier Giroud en Italie. Et un dernier point de cyclisme pour conclure ce journal des sports. Laure Broulard nous parle du prologue du Tour du Rwanda.
Ils étaient plusieurs centaines à se masser ce matin devant la Kigali Arena pour assister à la première étape du Tour. Certains avaient revêtu le maillot de leur équipe préférée. Etienne Guerrero est quant à lui venu avec son vélo. Et il est particulièrement fier cette année puisque son pays accueillera bientôt les championnats du monde de cyclisme.
C'est le bonheur, c'est comme une couronne d'accueillir cet tournoi du monde. Il y a tant de pays qui ne peuvent pas avoir cette chance. Alors nous disons merci pour Dieu pour que dans ces 3 ans, on va recevoir cette compétition.
C'est qui votre coureur préféré cette année?
L'enfant du quartier qu'on appelle Mugisha Samuel. Je suis le fan de lui, même il ne joue pas dans l'équipe rwandaise, il joue dans l'Afrique du Sud.
Malgré la forte pluie, une partie du public est restée en place.
Je m'appelle Jean-Claude, on est venu assister malgré le climat qui est là. Mais on est là, on est content, il y a beaucoup de monde, il y a tout le monde qui est venu.
Et est-ce que vous pensez que le Rwanda est prêt pour accueillir les mondiaux dans 3 ans?
Oui, on a les infrastructures, on a tout, on a les autorités qui encouragent le sport différent.
Les futurs mondiaux de cyclisme braquent donc les projecteurs sur cette 14e édition du Tour du Rwanda. Christian Prudhomme, directeur du cyclisme chez ASO, a ainsi été invité par l'ambassade de France à venir assister aux 2 premières étapes. Les organisateurs n'ont donc pas droit à l'erreur. Olivier Grandjean, directeur technique et sportif de la course.
C'est une pression supplémentaire. Comme chaque année, de toute façon, on se met nous-mêmes la pression. Et c'est vrai que ces éléments extérieurs nous poussent encore à essayer d'être parfaits.
D'ici 2025, les défis sont nombreux. Logistique, accueil du public et des participants pour ce qui sera le plus grand événement jamais organisé au Pays des Mille Collines. Mais pour la Fédération Rwandaise de cyclisme, la priorité numéro 1 est de former une nouvelle génération de champions.
Voilà donc pour le sport. Pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le reste du programme. Vous écoutez Le Français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
On est mardi et c'est l'heure de faire le tour d'horizon de l'actualité en France de ces 7 derniers jours avec notre Zap France hebdomadaire tour d'horizon. Les bons mots, les petites phrases, tout est là.
Il me manque 50 de parrainages, j'appelle tous les maires. Parce qu'il y a urgence, il y a 8 jours ouvrables encore pour réunir les parrainages. Hein. J'appelle tous les maires qui trouveraient inouï, scandaleux, gravissime.
Ce sont des candidats de tous horizons, potentiellement qualifiés pour le second tour. Et pourtant, à moins de 2 semaines de la date limite, ils ne sont pas assurés d'obtenir les 500 parrainages d'élus nécessaires pour se présenter.
Et nous recevons sur ce plateau un candidat qui a aujourd'hui 379 parrainages. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
Bonjour madame.
Vous êtes candidat du parti Debout la France. Est-ce que vous êtes serein quant à votre qualification? Vous avez jusqu'au 4 mars prochain.
Je suis inquiet. Je suis en fait à 480 engagements réels. Il m'en manque 20. Et c'est terrible. Nous vivons dans un pays incroyable où il y a des pressions sur la liberté des maires. Et vous savez, vous avez appris sans doute que François Bayrou allait donner des parrainages à M. Zemmour, à Mme Le Pen, à M. Mélenchon. Il en a choisi 3. Mais ça veut dire quoi? Il faut que les Français sachent ce qui se passe. Ça veut dire que le président de la République choisit lui-même ses concurrents.
3 semaines avant la fin des dépôts des parrainages, François Bayrou vient à l'aide de ceux qui n'ont toujours pas leurs 500 signatures.
Nous sommes prêts à nous réunir pour dire notre signature ne vaut pas soutien, c'est pas un engagement partisan, c'est transpartisan, mais nous sommes prêts à apporter la garantie que tous ceux qui doivent participer à cette élection y participent.
La condition selon le MoDem, être à plus de 10% dans les sondages. Sont concernés Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour.
D'ici le 4 mars, Éric Zemmour ne pourra pas avoir ses 500 signatures.
Mais envisagez-vous un scénario où soit ni vous ou Mélenchon ou Marine Le Pen ne puissent participer à l'élection présidentielle? C'est possible?
C'est très possible. Je vous assure que c'est très possible.
De quoi ce serait le révélateur si tel était le cas?
Ça serait le révélateur d'un dévoiement de procédure de parrainage. Au début, le général de Gaulle, d'ailleurs c'était limité à 100 maires, le faisait pour ne pas avoir de candidature de fous, de fantaisistes, de voyez bon. Puis on a mis à 500, pourquoi pas? Mais à partir du moment où M. Hollande a rendu public tous les noms des maires, il les a mis sous la pression de leur parti politique,
des communautés de communes, des régions, des départements qui font pression, qui leur disent « si tu choisis Zemmour, il n'y a pas de subvention pour ta piscine. Si tu parraines Zemmour, tu vas voir, on va casser ta majorité municipale. » On n'est plus au temps où Mitterrand et Chirac disaient « allez, trouvez-moi son maire ». C'est fini ce temps-là.
Je n'ai jamais été aussi inquiète. Et pourtant,
vous l'êtes à chaque fois. Alors,
je le suis à chaque fois parce qu'à chaque fois, on a des raisons de l'être. Mais là, précisément, je suis extrêmement inquiète parce que je m'aperçois que beaucoup de candidats sont dans la même situation que moi. C'est-à-dire que le réservoir s'est totalement asséché. Pourquoi ? Parce que les maires, depuis des décennies, disent que ce système ne fonctionne pas et que personne au pouvoir n'a voulu le changer.
Où en sommes-nous ? 6 candidats sont déjà assurés de pouvoir se présenter au suffrage des Français. D'autres ont quasiment leur billet en poche, comme Yannick Jadot. Mais beaucoup sont très incertains, à l'image de Christiane Taubira. Seulement 86 signatures, sa participation semble déjà compromise. Faut-il donc réformer ce système de qualification ? Beaucoup de candidats en recherche de parrainage le souhaitent, à l'image de Jean-Luc Mélenchon, qui propose que 150 000 signatures de citoyens soient nécessaires. Pour d'autres, il faudrait d'abord que le choix des maires ne soit plus rendu public.
Le minimum qu'il faudrait faire, c'est les rendre anonymes ces parrainages, pour que les maires n'aient pas le sentiment de devoir ensuite justifier ce qui serait un soutien politique.
Mais cette politologue rappelle que depuis 1965, aucun candidat majeur n'a été empêché de se présenter, faute de parrainage.
Pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. Et donc, ça explique sans doute aussi qu'on n'ait toujours pas réformé le système, même si de 5 ans en 5 ans, il est toujours contesté.
Geste symbolique. Le maire de Cannes, pourtant soutien de Valérie Pécresse, annonce donner son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Les maires ont jusqu'au 4 mars à 18h pour faire parvenir leur formulaire au Conseil constitutionnel.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et national. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
h 44 et je passe maintenant l'antenne à ma collègue Marianne qui a pu avoir au téléphone Florence Gillette, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Ukraine. Elle nous parle du sentiment général sur place.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
La Russie va-t-elle envahir l'Ukraine ? C'est la question que tout le monde se pose. Les États-Unis sont persuadés que oui, et ce, dans les prochains jours. 150 000 soldats russes sont actuellement stratégiquement positionnés à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Si la guerre était déclarée, c'est toute la structure européenne qui serait fragilisée. C'est la raison pour laquelle, tour à tour, les dirigeants s'entretiennent avec Vladimir Poutine d'un côté, Volodymyr Zelensky de l'autre, mais ceux qu'on entend moins, ce sont pourtant les premiers concernés, les 44 millions d'Ukrainiens, ceux qui sont sur place et qui ne savent pas à quoi s'attendre dans les prochains jours. Alors pour représenter leur voix, nous sommes en ligne avec la chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Ukraine, Florence Gillette. Bonjour, vous êtes basée à Kiev. Merci de nous accorder cette interview. On le disait, l'Ukraine, c'est 44 millions d'habitants, 2,8 millions juste dans la capitale de Kiev. Les yeux du monde entier sont rivés vers l'Ukraine. Florence, quel est le sentiment général sur place ?
Bonjour Marianne. Eh bien, ça va être difficile de dire quel est le sentiment général parce qu'il est très varié selon les gens, selon l'endroit où ils sont aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le bruit de fond énorme dont vous avez parlé, viennent se greffer depuis trois, quatre jours maintenant, des hostilités assez importantes à l'est de l'Ukraine, dans les régions de Donetsk et Lugansk, des deux côtés de la ligne de contact, où sévit un conflit armé depuis 8 ans. Dans cette zone-là, aujourd'hui, le conflit est une réalité. Il est une réalité depuis 8 ans, mais il s'est surtout intensifié ces derniers jours. Et on commence à avoir des conséquences humanitaires assez importantes de ces nouvelles hostilités, y compris en ce qui concerne des dommages sur les infrastructures essentielles, c'est-à-dire les infrastructures telles que l'eau, potentiellement l'électricité et le gaz, et tous les services essentiels à la survie de la population qui dépendent de ces services-là.
Et justement, vous parliez de cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de tous les habitants depuis 8 ans maintenant. On a entendu le président Zelensky dire qu'il n'y avait pas encore lieu vraiment de s'inquiéter. Est-ce que la population est rassurée par les représentants politiques, elle est aidée par les humanitaires, vous venez d'en parler, mais est-ce qu'elle est rassurée?
C'est difficile à dire, parce que moi je peux surtout parler effectivement de la situation à l'est de l'Ukraine, où je me rends régulièrement. J'étais encore à Donetsk, dans la ville de Donetsk, il y a 10-15 jours. La situation alors était calme, mais on a vu aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui la population n'est pas rassurée à l'est de l'Ukraine, puisque ça fait 4 jours que cette population, comme nos équipes, vivent et dorment au son des bombardements terre-terre, hein, de ce qu'on appelle du shelling, et sentent cette pression permanente. À Kiev, la situation est différente. Aujourd'hui, il y a encore, je dirais, une vie normale dans la rue, mais à l'est, c'est aujourd'hui une réalité qui est une situation qui s'est amplifiée, qui est beaucoup plus grave qu'elle ne l'était il y a quelques semaines, quelques mois.
Mais justement, vous parlez d'une aggravation des conditions de vie sur place. Et de son côté, Vladimir Poutine, quand on évoque les 150 000 soldats amassés à la frontière, il parle d'un processus normal de militarisation. Il dénonce l'hystérie occidentale qui parle d'une invasion imminente. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ah, je ne peux pas commenter sur les propos du président Poutine, ni d'autres, ni du président Zelensky, quelque part. Nous, ce qu'on regarde avant tout en tant que comité international de la Croix-Rouge, c'est vraiment la situation des civils sur le terrain. On ne peut pas dire aujourd'hui exactement ce qui se passe d'un point de vue militaire, on peut juste en voir les conséquences humanitaires sur les gens et cette réalité-là.
La réalité, justement, on la voit depuis plusieurs jours en vidéo partout sur la plupart des chaînes de télévision. Ce sont les déplacés, les gens qui fuient. La plupart d'entre eux se rendent parfois en Russie, se réfugier dans de la famille. Vous, qu'est-ce que vous observez sur place ces derniers jours?
Alors, le CICR peut juste dire ce qu'on vous voit en partie, mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous avons 400 collègues qui travaillent de part et d'autre de la ligne de contact, hein, dans ces deux régions. On a plus de 120 collègues qui sont dans la ville de Donetsk et environ 45 dans la ville de Lugansk. Eux, ce qu'ils voient, c'est déjà qu'effectivement, il y a des hostilités, il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue militaire et qui est, je dirais pas permanent, mais quasiment, avec des périodes d'accalmie. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui restent, hein, qui sont sur place et qui vivent dans une situation de stress intense due à ces hostilités et à ce qui se passe autour.
Et vous, en tant que membre de la Croix-Rouge, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour venir en aide au quotidien à cette population?
Alors aujourd'hui, on en est vraiment au premier jour. On a des programmes qui durent depuis des années, dont certains malheureusement pour l'instant sont un peu mis en suspens parce que on attend de comprendre ce qui se passe et il faut aussi que la sécurité soit suffisamment bonne. Mais par contre, depuis samedi déjà, on travaille de façon renforcée avec des partenaires qui sont notamment les compagnies en charge de la production et de la distribution de l'eau aux personnes, puisqu'il y a eu des gros dommages très importants en fin de semaine dernière, qui sont en train de mettre en danger l'approvisionnement en eau de plus d'un million de personnes. Et ça, c'est juste, on parle d'une à deux frappes. Il y a d'autres événements qui se passent à d'autres endroits. Donc, on travaille avec ces sociétés, ces compagnies d'eau, pour voir quels sont leurs besoins, comment on peut les aider en vue d'une réparation ou d'un remplacement de machines, d'équipements qui ont été détruits. Et en parallèle de ça, on travaille aussi, on réfléchit à comment les aider pour mettre en place des solutions alternatives, hein, pour pouvoir notamment s'assurer que ces compagnies de l'eau ou des autorités locales peuvent assurer la livraison temporaire en urgence d'eau par camion aux populations. Donc ça, c'est un des exemples qu'on peut donner sur ce qu'on est en train de faire. On est aussi en contact avec les services de santé, avec les hôpitaux, avec les centres de santé primaires, qu'on accompagne depuis très longtemps en raison du conflit, mais aussi sur la prise en charge de toute une série de pathologies, et qu'on a accompagné encore de façon plus forte depuis le début de la crise du Covid-19. Et on est en contact avec eux aujourd'hui pour comprendre quels sont les besoins, comment mieux les aider à se préparer en cas d'augmentation forte du nombre de blessés, que nous n'avons pas encore vu, heureusement, et que nous espérons que nous ne verrons pas. Donc pour l'instant, il y a encore peu de blessés et de morts, mais malheureusement, l'intensité des hostilités étant telle qu'il y a un risque que ça commence à arriver. Donc tout ça, on est en contact pour s'assurer qu'ils ont ce qu'il faut, sachant que nous avons toujours, depuis des années, travaillé avec certains hôpitaux pour s'assurer qu'ils aient toujours un stock d'urgence pour prendre en charge les blessés de guerre et les cas traumatiques.
C'était ma prochaine question, une question qui paraît bien irréelle à poser. Êtes-vous prêt en cas d'invasion imminente ?
Je pense que personne n'est prêt face à des scénarios qui aujourd'hui vont dans tous les sens. On ne sait pas quels sont les scénarios à venir, on ne sait pas ce qui va se passer. Nous avons travaillé depuis des semaines sur notre capacité à être agile, réactif, et aussi de par nous-mêmes en tant qu'institution, mais aussi avec nos partenaires tels que la Croix-Rouge ukrainienne, les autres membres du mouvement, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et aussi tous nos contacts. Je parlais des compagnies d'eau, les services médicaux, les services d'urgence. Et toute une autre série d'acteurs locaux, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en Ukraine et qu'il y a beaucoup de capacités locales, à la fois d'un point de vue, je dirais, technique de réponse. Il y a des capacités financières, on est dans un État qui fonctionne, qui existe. Et donc, plus que de se substituer, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de renforcer les mécanismes de résilience des communautés, de la société civile là où elle est en place, et des différentes administrations et services à la population.
Et est-ce que vous avez des contacts également avec les gouvernements, l'OTAN ? Comment la Croix-Rouge est-elle soutenue si l'Ukraine était plongée dans une guerre ?
Alors nous travaillons ici depuis plus de 8 ans. On a travaillé ici dans le passé, mais on est surtout très présent en fait depuis 2014. On est présent des deux côtés de la ligne de contact, donc on est présent à Donetsk, à Lugansk, à Kiev, mais aussi à Mariupol, Slaviansk et Severodonetsk. Et on a eu aussi pendant longtemps une présence à Odessa qui aujourd'hui est réduite, mais encore là. Donc on est connecté, je dirais, au niveau des personnes, des autorités locales dans tous ces endroits-là. Et des interlocuteurs, mais on travaille aussi depuis très longtemps avec l'armée ukrainienne pour s'assurer qu'ils investissent dans leur programme de diffusion et de mise en œuvre du droit international humanitaire. Et puis, parce qu'on travaille dans des zones qui sont déjà affectées par un conflit, on a des processus de dialogue avec eux. Et je dirais qu'on a aussi des contacts avec une bonne partie des personnes qui prennent des décisions sur l'Ukraine, sur la situation à Donetsk et Lugansk, et aussi avec toute une série d'États et l'Union européenne. Donc on a un réseau qui existe depuis longtemps en raison du fait qu'il y a un conflit qui est là, qui existe depuis 8 ans et qu'on on y joue malheureusement, parce que ça veut dire qu'il y a un conflit, un rôle important depuis 8 ans.
Florent Gillette, je rappelle que vous êtes la chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge à Kiev, en Ukraine. Merci d'avoir répondu à nos questions, merci de nous avoir accordé du temps en cette situation très particulière, et surtout merci pour ce que vous faites en Ukraine au quotidien. On vous souhaite bon courage pour la suite.
Merci beaucoup Marianne, et puis en espérant que la prochaine fois qu'on se parle, ce sera dans un meilleur contexte.
On l'espère. Au revoir.
Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et en fin d'émission, un rappel des grands titres de ce mardi 22 février. La Fédération russe reconnaît l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'Est ukrainien. Un service limité des transports en Nouvelle-Galles du Sud suite à un conflit entre le gouvernement et le syndicat des travailleurs du transport et le retour triomphal de Novak Djokovic au tournoi de Dubaï après la saga australienne de l'exemption médicale en janvier dernier. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Belle journée, à très bientôt.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.